Champagnac, les sirvaines et leurs persécuteurs. On a vu que trop d'enfants dénaturés trempaient leurs mains dans le sang de leur père. Mais les annales du crime fournissent peu d'exemples de pères qui aient égorgé leurs enfants. À Rome, même à Rome, qui donnait à ses citoyens un pouvoir absolu dans leur famille, à part les fils de Botus et celui de Manlius, pourrait-on citer beaucoup d'enfants mis à mort par leur père? Et quand ce crime a été si rare chez un peuple qui ne le punissait pas, doit-on le présumer si facilement dans une nation dont les lois, les mœurs douces, les caractères aimants et sensibles le repoussent avec horreur? La calomnie et la prévention ne sont point, il est vrai, arrêtées par de semblables considérations. Elles avaient déjà traîné l'infortuné Calas à l'échafaud dans la ville de Toulouse. Elles voulurent aussi une victime à Castres. « Vous semble, écrivait Voltaire, qu'il y ait dans le Languedoc une furie infernale, amenée autrefois par les inquisiteurs à la suite de Simon de Montfort, et que depuis ce temps, elle secoue quelquefois son flambeau. Pierre-Paul Sirven, établi depuis plus de 20 ans à Castres, sa patrie, y exerçait les fonctions de commissaire à terrier. Il épousa en 1734 Toinette Léger, dont il eut 3 filles. Sirven et sa femme, nés tous deux protestants, élevèrent leurs enfants dans la même croyance, et ce fut la cause de leurs infortunes. Le 6 mars 1760, Élisabeth, leur seconde fille, disparut tout à coup de la maison paternelle. Qu'était-elle devenue? Le père, inquiet sur le sort de son enfant, fait d'actives recherches. Il découvre enfin que, sans aucun ordre et contre toutes les lois, on lui avait enlevé sa fille pour la conduire au couvent des dames régentes. Sirven gémit de cet odieux arbitraire, mais il dévora son chagrin en silence. Le but de cet enlèvement était de convertir la jeune Élisabeth. On mit tout en œuvre pour y parvenir. Promesses, menaces, mauvais traitements. On ne fit que troubler sa raison et la réduire à un pitoyable état d'imbécilité et de démence. Il y avait 7 mois que Sirven et sa femme pleuraient la perte de la fille lorsqu'on va leur annoncer qu'elle allait leur être rendue. À cette nouvelle inespérée, soudain toute la famille est dans la joie. Le père et la mère s'embrassent avec transport. Ils vont donc revoir leur fille chérie. Madame Sirven bénit le ciel avec transport, car, comme dit le poète, l'enfant que la mère préfère est celui qu'on veut lui ravir. Tous, ils ouvrent leurs bras pour y recevoir, pour y presser Élisabeth. Elle arrive, la pauvre malheureuse. Mais quel spectacle douloureux! C'est un spectre pâle et décharné, une pauvre insensée qui reçoit leurs caresses avec une stupide insensibilité. Le père et la mère ont le cœur brisé. Les pleurs amers du désespoir succèdent aux larmes de la joie. Cependant, une lueur d'espérance vient ranimer leur courage. Peut-être que les soins de ses parents, les efforts de l'art, pourront opérer sa guérison. Malheureux père, mère infortunée, l'état de leur fille était désespéré. Bientôt, la démence d'Élisabeth tourna en fureur dans ces moments de crise. On l'entendait pousser des hurlements horribles, et elle retombait dans un accablement qui ne tarda pas à être suivi de nouveaux accès de frénésie. Sirven, effrayé des dangers que courait sa fille, fut contraint, pour l'en garantir, d'avoir recours aux précautions que l'on emploie contre les insensés. Il assujettit ses bras au moyen d'un habillement étroit et qui lui ôtait la liberté d'abuser de ses mains furieuses. Il fit fermer les volets de sa chambre avec un cadenas. Enfin, il éloigna de sa porte tout ce qui pouvait compromettre sa propre sûreté et celle des autres. Mais bientôt, la calomnie lui imputa à crime toutes ses précautions que lui inspiraient la prudence et la tendresse paternelle. On l'accusa, auprès de l'intendant de la province, de tenir sa fille renfermée depuis 6 mois, de l'avoir mise dans un sac et de l'accabler de mauvais traitements pour l'empêcher de se faire catholique. Ces imputations tombèrent devant l'évidence lorsque Sir Gunn eut fait visiter sa fille par les médecins désignés par l'intendant. La calomnie ne se rebuta pas pour cet échec. Elle suscita tribulation sur tribulation à la famille. Sir Gunn était déterminé à réduire ses calomniateurs à l'impossibilité de l'accuser désormais de s'opposer aux intentions pieuses d'Élisabeth. Il prit le parti d'éloigner de sa maison cette malheureuse fille qui en troublait si cruellement le repos et de la déposer entre les mains de l'archevêque de Castres. Avant de mettre ce projet à exécution, il voulut consulter la dame d'Espérandieu, dont il faisait le terrier, et se rendit à cet effet au château d'Aiguefonde, qui habitait cette dame. Mais pendant sa courte absence, le génie du mal conspirait sa perte dans sa maison. Au moment où Sir Gunn se disposait à quitter le château d'Aiguefonde, tout à coup arrive à la hâte un express qui lui annonce qu'Élisabeth s'est évadée pendant la nuit et qu'on l'a vainement cherchée. Alarmé de cette nouvelle, Sir Gunn part sans délai, arrive chez lui, trouve sa femme et ses deux fils éplorés. Tous les habitants de Saint-Albi, lieu de sa nouvelle résidence, lui apprennent qu'on n'a fait que d'inutiles recherches. Il donne de nouveaux ordres, il fait partir de toutes parts des gens de confiance pour découvrir les traces de sa fille. Tous reviennent sans en rapporter aucune nouvelle. Elle avait disparu. Qu'on se figure la consternation du père, de la mère et des deux sœurs. Ces infortunés passaient les jours et les nuits dans les angoisses et dans les larmes. Sir Gunn se flattait quelquefois que sa fille avait été enlevée par ordre supérieur et conduite dans quelque maison religieuse. Plus de 15 jours s'étaient écoulés depuis la disparition d'Élisabeth, lorsque des enfants, qui cherchaient des oiseaux près du puits de Saint-Albi, aperçurent un cadavre flottant sur l'eau. À cette vue, ils jettent des cris d'alarme. On court avertir le juge de Mazamet. Il arrive, il fait retirer du puits le cadavre. On l'entoure, on regarde, et on reconnaît la fille de Sir Gunn. Le cri général fut qu'elle s'était précipitée elle-même dans le puits. Quelques personnes se rappelèrent alors que le jour même de la disparition de cette fille, on l'avait vue se tourner vers le puits, en faisant des grimaces comme une folle, et comme si elle eût annoncé son funeste dessein. Tout le monde, d'un commun accord, plaignait les parents d'Élisabeth, et personne ne les soupçonnait alors d'avoir eu la moindre part à la mort de leur fille. Les ennemis de Sir Gunn surent peu de temps après donner un autre tour à l'opinion publique. Calas, aussi protestant, venait de perdre son fils par un événement à peu près semblable, et sa famille était plongée depuis 2 mois dans les cachots de Toulouse. Le fanatisme accréditait chez les catholiques de la province qu'un des points capitaux de la religion protestante est que les pères et mères sont tenus de perdre, pendre, dégorger ou de noyer tous leurs enfants qui soupçonnent avoir quelque penchant pour la religion catholique. On en vint à dire publiquement que c'était Sir Gunn et sa femme qui avaient précipité leur fille dans un puits. Tous ces récits absurdement atroces furent accueillis avec avidité par une populace crédule et superstitieuse, et l'opinion que Sir Gunn avait fait périr sa fille devint bientôt générale. Le juge de Mazamet se conduit dans cette circonstance non comme un magistrat loyal et intègre, mais comme un bourreau qui demande une victime, comme un assassin qui tend des pièges à celui qu'il veut égorger. On avait dressé sur la découverte du cadavre d'Élisabeth un rapport d'experts conforme à la vérité, On en produisit un second qui détruisait le premier presque entièrement et où tous les faits étaient altérés ou changés. On osa y insérer que la tête du cadavre paraissait ébranlée, qu'on avait trouvé du sang caillé à la nuque du cou, et qu'il n'y avait point d'eau dans l'estomac, et que la fille était dans un parfait état de virginité. Donc, ajoutait-on, elle n'avait eu aucune faiblesse, qui, par la crainte des suites, lui forçait de recourir au suicide. Donc, ce n'était point les scélérats qui lui avaient ainsi donné la mort, après lui avoir ravi l'honneur. Elle n'avait point d'eau dans l'estomac, donc ses meurtriers l'avaient étouffée avant de la jeter dans le puits. Donc, il n'y avait eu ni assassinat ordinaire, ni suicide. Donc, on ne pouvait être que son père qui... Telle était pourtant la conséquence atroce que l'on cherchait dans cet étrange abus de raisonnement. Telles étaient les absurdes conjectures à l'aide desquelles on prétendait prouver le plus invraisemblable, le plus incroyable des crimes. Sirven, alors, se porte partie civile, poursuit l'instruction avec chaleur, fait constater la démence de sa fille et prouver son alibi par une foule de témoins. Il commençait à reprendre sa tranquillité et, par suite, de nombreux témoignages qu'il avait produits se croyait désormais à l'abri des attaques de ces fanatiques calomniateurs. Déjà, il les bravait et se promettait de faire tomber sur eux tout l'opprobre de l'horrible accusation qu'ils avaient voulu faire peser sur lui, lorsque, par l'effet d'une imagination ourdie par le procureur fiscal et le juge de Mazamet, un décret de prise de corps fut lancé contre lui, contre sa femme et ses deux filles. Le 21 janvier 1761, de grand matin, Sirven voit entrer dans sa chambre sa femme et la plus jeune de ses filles, toutes deux pâles et consternées. « Mon mari, mon père, s'écrie-t-elle en se jetant dans ses bras, nous sommes perdus, on nous accuse d'avoir assassiné. » Les sanglots étouffaient leur voix. « Ma fille, reprend Sirven, où est votre fille ?»« Ma sœur, le juge a lancé contre nous un décret de prise de corps. » »« Le juge est-il possible ? La maréchaussée a commandé et va marcher contre nous. » Le premier mouvement de ce père indigné fut de marcher à la rencontre de ses sbires et de présenter ses mains à leur chaîne. « Mais que voulez-vous faire ? » s'écrie sa femme. « Mais que peuvent-ils contre moi ? Suis-je pas innocent ?»« Tremblez, lui dirent ses amis. Il n'y a plus de sûreté pour l'innocence quand son juge est aveuglé par la passion. Voyez-vous pas que tout est arrangé pour votre perte ? À quoi vous sert la pureté de votre conscience ? Un décret de prise de corps n'est-il pas déjà lancé contre vous ? Cet acte n'annonce-t-il pas assez que l'on vous poursuit comme un coupable ? Défiez-vous de votre innocence, fuyez ! Quoi ? Fuir, fuir ? Charger d'une accusation de parricide ? Sauver ma vie pour réserver à la honte ? Un cri général va s'élever contre nous. Le juge unique qui nous poursuit triomphera dans son iniquité. C'est la justifier nous-mêmes que de lui dérober notre tête. Mais qui voudra croire à notre innocence si nous fuyons comme des criminels devant la justice ? Mais quoi, lui répondit-on, vous appelez justice les passions de vos ennemis, l'oubli total des lois les plus sacrées. La fuite est un devoir quand on se dérobe à une mort infâme et imméritée. Vivez plutôt pour manifester un jour votre innocence, pour faire trembler à son tour le juge qui triomphe aujourd'hui. L'erreur, la prévention, le fanatisme n'ont qu'un temps. La vérité finit toujours par l'emporter. Ses remontrances, les larmes de sa femme, celles de ses filles, déterminèrent Sirven à prendre la fuite. Il abandonne sa maison. Il va cacher sa famille chez un honnête homme gentilhomme du faubourg de Castres. Et dès le lendemain, il apprend que l'on a saisi ses meubles et effets à Saint-Albi et qu'on le cherche partout. Le péril redouble. La ville de Castres n'est plus un lieu de sûreté. Il faut partir sans délai. Il était nuit. Un ouragan affreux troublait l'atmosphère. Des torrents de pluie inondaient la terre. Mais il n'y avait pas à balancer. On était à leur poursuite. Ils prennent à la hâte congé de leur hôte et recommencent à fuir au milieu des ténèbres les plus épaisses pendant le choc terrible de tous les éléments. Qu'on se représente un père accablé de douleur, une mère âgée de 63 ans, qui allait soutenir à chaque pas une de ses filles, mariée depuis 1 an, dont la grossesse avancée se décelait par de fréquentes faiblesses. Qu'on se représente ces tristes voyageurs, tremblant au moindre bruit, se traînant à pied dans les chemins impraticables, et cherchant à travers l'obscurité quelque asile ignoré, où l'innocence fut en sûreté. Cependant, les amis de Cervène lui ayant fait savoir que sa femme et ses 2 filles seraient en danger tant qu'il serait avec elle, il se résigna à un nouveau sacrifice. Il s'arracha les bras de sa famille en pleurs et disparut au milieu des rochers. La mère et ses 2 filles errèrent de retraite en retraite. Bientôt même, elles furent contraintes de se séparer aussi. Personne n'osait plus accueillir ces 3 femmes ensemble. La mère se sépara donc de ses 2 filles. Elles suivirent des routes différentes. La jeune femme enceinte accoucha sans secours sur le chemin au milieu des glaçons. Il fallut que toute mourante, elle emportât son enfant mourant dans ses bras. Ce ne fut qu'après bien des peines, bien des dangers, après un voyage long et pénible dans des chemins impraticables, sur des montagnes couvertes de neige et presque inaccessibles, qu'elles arrivèrent en Suisse, l'une au commencement d'avril, les autres au mois de juin 1762. Dans ce pays hospitalier, une foule de personnes de distinction leur donnèrent des marques consolantes du plus vif intérêt. Voltaire, surtout, ce généreux défenseur des Calas, s'éleva courageusement contre l'injustice qui opprimait les Cervènes. Voici ce que cet apôtre de l'humanité écrivait à Damien Laville à ce sujet. Le même hasard qui m'amena les enfants de Calas veut encore que les Cervènes s'adressent à moi. Figurez-vous, mon ami, 4 moutons que les bouchers accusent d'avoir mangé un agneau. Voilà ce que je vis. Il m'est impossible de vous peindre tant d'innocence et de malheur. Que devais-je faire et qu'eussiez-vous fait à ma place? Faut-il s'en tenir à gémir sur la nature humaine? Je prends la liberté d'écrire à Monsieur le Premier Président du Languedoc, homme vertueux et sage, mais il n'était point à Toulouse. Je fais présenter par un de vos amis un placé à Monsieur le Vice-Chancelier. Et pendant ce temps, on exécute vers Castres, en effigie, le père, la mère, les 2 filles. Leur bien est confisqué, dévasté. Il n'en reste plus rien. Voilà toute une famille honnête, innocente, livrée à l'opprobre et à la mendicité chez les étrangers. Ils trouvent la pitié, sans doute, mais qu'il est dur d'être jusqu'au tombeau un objet de pitié. En effet, les ennemis de Cervène, après le départ de la famille, avaient continué leurs poursuites acharnées et, condamnés par contumace à être pendus et étranglés, les Cervènes furent exécutés en effigie à Mazamet le 11 septembre 1764. Cervène, en apprenant ce jugement rendu contre lui et les siens, fut saisi d'indignation. Il fit serment de laver cet affront, fût-ce même de son sang, et il eut le courage d'aller se remettre dans les prisons de Mazamet. L'apparition soudaine de ce prétendu coupable fit trembler le juge qui l'avait condamné. La procédure recommença le 2 septembre 1769. Le 26 novembre suivant, une nouvelle sentence fut rendue. qui mettait les partis hors d'instance et rendait à Sirmaine ses biens et sa liberté. Sirmaine appela de cet arrêt qu'il n'était point une réparation assez éclatante de l'iniquité exercée contre sa famille. L'affaire fut portée au Parlement, qui déclara la famille Sirmaine innocente des crimes dont elle avait été accusée. Le célèbre avocat Élie de Beaumont, qui avait déjà défendu la cause sainte de l'humanité et de la justice dans la personne des Calas, venait de publier en faveur de Sirmaine un mémoire qui toucha et convainquit tous les lecteurs et dut faire impression sur l'âme des juges. Il avait paru aussi, vers le même temps, une consultation signée de 19 célèbres avocats de Paris qui était aussi décisive en faveur de cette famille innocente que respectueuse pour le Parlement de Toulouse.